Béni soit le nom du Seigneur pour ces moments privilégiés que nous pouvons passer ensemble. Je voudrais faire trois lectures avec vous. La première, c'est une parole du papa, du fils prodigue, dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Quelle est la chose que cet homme a demandé pour accueillir son fils qui était très mal en point? On va lire juste le verset 22. Luc chapitre 15, verset 22. C'est une parole qui peut correspondre à quelqu'un ce soir qui est brisé, qui revient à Dieu, qui vient à Dieu et qui a besoin de savoir ce que Dieu veut faire avec lui ou avec elle. Luc chapitre 15, verset 22. « Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Mais le verset qui nous intéresse est celui-ci, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. » Dans l'Apocalypse, au chapitre 7, nous voyons des hommes, des femmes qui chantent. Pourquoi chantent-ils ? C'est important de savoir pourquoi. Parce que dans l'Apocalypse, tout le monde ne chante pas. Je ne sais pas si vous avez lu l'Apocalypse, mais laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui pleurent. Mais dans l'Apocalypse, au chapitre 7, il y a des hommes qui chantent. Alors, ils chantent. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est à partir du verset 13. « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frappera plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. » Amen. Ces gens-là sont revêtus de robes. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, Matthieu. Le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 6. Vous connaissez certainement ce chapitre si vous avez déjà ouvert la Bible. Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus parle d'une catégorie de personnes, à une catégorie de personnes. Matthieu chapitre 6, verset 25 au verset 34. Vous connaissez bien ce texte. C'est dans ce texte où il est écrit « Cherchez premièrement ». Tout à l'heure, le meneur de chant nous a dit un mot et le Seigneur peut nous parler. Eh bien écoutez, un ou deux, hein, « Cherchez premièrement ». C'est le titre de ma prédication, « Cherchez premièrement ». Dans quel contexte Jésus a dit ces deux mots aussi importants? On va voir ce soir la signification de ces deux mots avec l'importance d'être bien habillé pour Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Qui ne connaît pas ce texte? Tous les chrétiens qui ont commencé à découvrir l'évangile ont lu ce texte. Mais voilà, à moins qu'il ne devienne familier et qu'il ne vous dise plus rien, ce texte est un des textes les plus merveilleux de la Bible où nous voyons exactement ce que Dieu veut. C'est important d'être heureux, oui ou non? Le sermon sur la montagne, vous avez vu comment il commence. Heureux l'homme, heureux les, les miséricordieux, heureux, les pauvres en esprit, etc. On voit dans le sermon sur la montagne que Dieu veut que l'homme soit heureux. Et pourtant, beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux. Et des fois, les gens même sont trompés. Donnez votre cœur à Jésus et vous serez heureux. Alors les gens donnent leur cœur à Jésus, mais quand vous discutez avec eux, vous observez qu'ils ne sont pas heureux. Alors qu'ils viennent à l'église, alors ils confondent tout. Ils confondent lire la Bible, venir à l'église, et véritablement venir au Seigneur. Jésus a dit des choses importantes. Quand Jésus dit « chercher premièrement », il faut comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce qu'on lit la Bible que l'on prie, que Dieu est en premier dans notre vie. Ce sont des paroles importantes, et je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tout le monde aspire au bonheur. Les chrétiens, même s'ils savent que le meilleur est devant eux, que la vie ne s'arrête pas sur la terre, etc., quand même, c'est bien de savoir que sur la terre, on peut être heureux, oui ou non. Soyons honnêtes. On pourrait dire, bon, sur la terre, si je ne suis pas heureux, ce n'est pas grave. L'éternité, ça, c'est bon. Oui, ça tient debout. Mais on peut, même si on a quelques années encore à vivre sur la terre, autant les vivre dans la paix et dans le bonheur. Il y a des mots qui sont importants. Jésus les a prononcés. Cherchez premièrement. Il n'a pas dit cherchez aussi quand vous avez le temps. Cherchez premièrement. Il y a des gens, ils cherchent Dieu quand ils ont le temps. Ils cherchent Dieu si ça, l'occasion se présente. Non, ce n'est pas dit cherchez aussi si vous avez le temps. Cherchez premièrement. Et ce soir, votre présence prouve, en tous les cas, si votre démarche est sincère, ce que je crois, que vous voulez mettre Dieu en premier dans votre vie. Nous avons vu le contexte, Jésus parle des besoins de l'homme, de se nourrir, de se vêtir, de s'abriter. Est-ce que c'est important tout ça, de se nourrir? Tiens donc, de se nourrir. Est-ce que c'est important pour vous la nourriture? Il y a des gens pour qui c'est pas important, ils disent, bon, il faut manger, je mange parce qu'il faut manger. Il y en a, on voit qu'ils aiment bien manger. Est-ce que vous aimez manger? Est-ce que vous mangez parce qu'il faut manger? Il y en a, il y a des gens, ils mangent, moi je mange parce qu'il faut manger. Ou est-ce que vous aimez manger? Bon, qu'importe, c'est pas grave. Tu aimes manger, toi? Tu aimes bien manger? C'est bien, tu as raison. Tu as raison. Voilà. Mais nos corps, quand vous regardez un peu la médecine, quand vous regardez un peu ce qu'est le corps, c'est extraordinaire un corps. Est-ce que vous le savez? D'ailleurs, c'est écrit. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. C'est un truc de fou, le corps. La façon dont les corps sont organisés, la façon dont Dieu a créé le corps pour nous, on voit de la chair, des muscles, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais enfin, nos corps ont besoin de calories. Oui, on a besoin de calories. Même si c'est compliqué, j'ai lu dernièrement sur Internet ceci. C'est deux savants qui ont écrit ceci. Une seule cellule de notre corps est aussi compliquée à elle toute seule que toute la ville de New York avec tout ce qu'elle peut contenir de réseaux téléphoniques, électriques, égouts, écoulements. Une seule cellule du corps humain est plus compliquée que tous les réseaux qu'il y a de navigation dans la ville de New York. Une seule cellule. Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Comment expliquer que vous prenez une tomate? Qu'est-ce que c'est que tu aimes manger, toi? Qu'est-ce que c'est que tu aimes manger? Des tomates. Comment vous comprenez qu'une tomate, une fois qu'elle est mangée, mastiquée, digérée, va se poser là où il faut pour nous... C'est quelque chose d'extraordinaire. Un enfant, je ne pense pas qu'un enfant, quand il mange une tomate, il se pose la question comment ça va se transformer en cellules, en globules, etc., etc. Nous avons besoin de nourriture et Dieu s'occupe de notre corps. Est-ce que Dieu s'occupe de votre corps? Oui, bon, on pourrait dire beaucoup de choses, et pour faire une allusion à l'importance de se nourrir spirituellement, peut-être on le fera tout à l'heure. Le deuxième besoin, c'est de se vêtir. Bon, pourquoi vous habillez-vous? Est-ce que vous aimez vous habiller? Est-ce que vous aimez vous habiller? Oui? Bon, pourquoi on s'habille? Parce que ben, l'hiver, c'est bien qu'il fait froid, non? Est-ce que c'est bien de s'habiller? L'été aussi. Mais je veux dire, est-ce que c'est normal de se vêtir? On a besoin de se vêtir parce que les vêtements nous protègent du froid et aussi par pudeur. Parce que vous savez que depuis le problème du péché qu'il y a eu avec Adam et Ève, les conséquences du péché font que l'homme a continuellement besoin de se vêtir. Ça, c'est la conséquence du péché. Bon, il y a eu la honte qui est venue et depuis, l'homme a besoin de se vêtir. L'homme a besoin de se vêtir. Il en a besoin et Dieu le sait. C'est pour ça, ne vous inquiétez pas du vêtement. Il y a des chrétiens, ils sont accaparés par le vêtement, ils font des achats compulsifs tout le temps, ils ont besoin d'acheter. Bon, c'est quand même dommage d'en arriver là. Quand Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. L'homme se cache de Dieu, il fuit Dieu. c'est autre chose. Le troisième besoin, c'est de s'abriter. Est-ce que c'est bien d'être à l'abri ?
C'est vrai, c'est bien.
Bon, que vous soyez dans une tente. Hier soir, j'ai vu une émission montrer des demeures luxueuses à des millions d'euros. Après, ils montraient dans le bois de Vincennes des gens qui vivaient dans des tentes. Mais enfin, que ce soit dans une tente, que ce soit dans une roulotte, que ce soit dans un bel appartement, que ce soit dans une maison de luxe, etc., l'homme a besoin de s'abriter. Oui ou non ? Et pour beaucoup de gens, tout s'arrête là. Je m'abrite, je m'habille, je mange, voilà, ça me suffit. Voilà ce qui se passe. Et Jésus en parle. Un animal, est-ce qu'il peut se contenter de ça ? Vous donnez un chien, une niche, un peu de nourriture, est-ce que ça lui suffit ? Oui. Un cheval, vous lui donnez une cahute, un peu de foin, ça lui suffit. À la limite, des fois, il y en a qui mettent une couverture sur le dos pour qu'il ait froid. Bon, un animal, ça lui suffit. Il ne vous demandera rien d'autre. Il sera content. Mais un homme, même si vous lui donnez ces trois choses dont il a absolument besoin, si vous ne lui donnez que ça, il sera toujours malheureux. Il y a un verset que j'aimerais lire avec vous dans l'Ecclésiaste. Il y a quelques années de cela, ce verset m'a interpellé. Il m'a interpellé et en même temps, il m'a énormément rassuré et expliqué beaucoup de choses par rapport aux gens qui sont riches et qui pourtant sont malheureux. Est-ce que vous savez qu'il y en a des gens riches et malheureux ? Eh oui, et c'est normal. Vous vous rendez compte, si l'argent rendait heureux, comment Dieu serait injuste ? Réfléchissez-y. Regardez ce qui est écrit dans Ecclésias au chapitre 5 et au verset 9. C'est un verset qui m'a énormément parlé. Vous savez, il y a des versets qui interpellent davantage que d'autres. Parce que vous êtes certainement conscient, vous voyez des gens qui ont tout pour être heureux. On le dit, mais comment ça se fait ? Tu as tout pour être heureux, tu as tout le bien-être possible. Et pourtant, tu n'es pas heureux. Est-ce que vous en connaissez des gens qui ont tout ce qu'il faut et pourtant, ils ne sont pas heureux ? Eh bien, regardez ce qui est écrit dans l'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Eh bien, voyez, c'est juste. Parce que si Dieu avait fait en sorte que l'argent rende heureux, Dieu serait injuste. Est-ce que vous me suivez ? Alors, est-ce que c'est une grâce de vivre dans l'abondance ? Ben oui, c'est une grâce en même temps. Mais si c'est sûr qu'on a besoin de nourriture, de vêtements, de logements, on a besoin de plus que ça. On n'est pas fait que de matière. Bien sûr que dernièrement, vous avez dû le voir, il y a un film qui vient de sortir là, sur les singes du Centrafrique. Je ne sais pas si vous avez vu. Les chimpanzés, ouais. Bon, il paraît que c'est un très 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 beau film. Mais moi j'ai vu les reportages, toute la journée, aux informations, ils ont repassé en boucle qu'on descendait du singe et que c'était nos anciens cousins, etc., nos lointains cousins. Mais c'était dit et présenté de telle sorte que, peut-être vous n'y faites pas attention, mais ça nous impose le fait que nous ne sommes que de la matière. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons reçu un esprit. C'est pour ça que l'homme ne peut pas être satisfait par l'argent, même s'il a tout ce qu'il faut, et même s'il doit se satisfaire de ce qu'il a, il lui faut davantage. Nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Oui, nous avons un Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous aussi, nous avons une trinité, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps lui prend conscience des choses physiques. Vous avez vu, s'il fait très très froid en sortant, vous allez vite vous en rendre compte. Vous voyez, quand il vous a parlé du vent, pourquoi ? Parce que dès qu'on sort, on se rend compte que le vent souffle. Vous avez vu comment le corps, il est sensible aux choses physiques. L'esprit, lui, est sensible aux choses spirituelles. Et il y a beaucoup de gens qui vivent comme s'ils n'avaient pas d'esprit. Demandez aux gens dans la rue, est-ce que vous savez que vous avez un corps ? Ils vont vous dire oui. Est-ce que vous savez que vous avez une âme ? Oui, encore. Est-ce que vous savez que vous avez un esprit ? Ah bon, les gens ne savent même pas qu'ils ont un esprit. Alors, on est très très loin des choses spirituelles. Et avec notre âme, nous prenons conscience des choses émotives, des choses que nous avons. On le voit dans la Bible, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Peut-être que votre âme est très sensible et que vous êtes tout le temps en train de remercier Dieu pour des bienfaits. Est-ce que vous le faites, ça, de dire « Oh, merci Seigneur pour ci ». Voilà, il y a des gens qui sont très 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 sensibles aux choses psychiques. Donc, ils sont tout le temps en train de bénir Dieu, comme David, mon âme, bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il y a des gens, vous dites « Vous rendez grâce à... » « Oh non, tout le monde mange, moi si je gagne, si je mange, c'est parce que je bosse. » Vous voyez ? Mais même, moi je crois que même si on travaille, c'est une grâce de Dieu que de manger. Vous voyez, il y a des gens, ils ne sont pas sensibles. Ça fait qu'ils sont tout le temps en train d'expliquer les choses. Quelqu'un qui est sensible, son âme sensible, eh bien, elle compte les bienfaits. Elle compte les bienfaits spirituels, mais aussi les bienfaits matériels. Cet homme, vous savez, qui avait emmagasiné « Mon âme, tu as des biens en réserve pour plusieurs années, réjouis-toi, etc. » Vous voyez, il y a des gens qui sont conscients de leur âme. Donc le bonheur dont Dieu parle souvent dans la Bible, il vient comment? Parce que moi je suis profondément peiné, je vous l'avoue, quand je vois autant de chrétiens malheureux. Dimanche encore j'étais à Marignane et il y a une sœur qui pleurait, qui est venue me voir, elle me dit « Mais vous avez raison, on est malheureux, on est angoissé, parce que les gens ne font pas ce que Jésus est en train de dire, ils ne cherchent pas premièrement le royaume de Dieu. » Si Jésus l'a dit, c'est sérieux, ils cherchent Dieu, ils cherchent le royaume, s'ils ont le temps. « Ah, moi, je n'ai pas le temps de lire. Moi, je lis quand je peux. Je viens à l'église. C'est déjà pas mal. » Le Seigneur est catégorique. Cherchez premièrement. Je le répète, il n'a pas dit « chercher aussi ». Il le présente comme une priorité. Vous le voyez comment? Chercher premièrement. Vous le voyez comme une priorité? Oui ou non? Comment vous le voyez? Chercher premièrement, ça veut dire, voilà, ça doit être une priorité dans votre vie. Et mes frères et sœurs, c'est important, je l'enseigne aux stagiaires, quand on lit une vérité, de voir dans quel contexte cela a été écrit. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Jésus va très très loin. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Est-ce que déjà quelqu'un a gagné le monde entier? A possédé Alexandre le Grand, il a possédé pas mal, mais enfin bon. Est-ce que quelqu'un a déjà possédé le monde entier? Non. Vous voyez? Et même si quelqu'un y arrivait, à quoi ça lui servirait s'il perdait son âme? Ce verset, il est là pour que l'on prenne conscience que notre âme vaut plus que tout le monde, que tout l'or du monde, que tout ce qui peut exister dans le monde. Est-ce que vous en êtes conscient? Beaucoup de gens n'en sont pas conscients. Quand on voit comment certaines femmes se débarrassent de leur bébé parce qu'elles n'en veulent pas, on voit vite, vite, vite comment les gens, la valeur que l'on donne à l'être humain. Mais je pense qu'il faut être sérieux, car nous avons un Dieu qui sait ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous allons vivre. Dieu sait ce que vous allez vivre. Est-ce que Dieu sait ce que vous allez vivre? Mais il le sait. Dieu sait ce qui vous attend. Il prépare, il dispose. Vous croyez que Dieu il fait les choses à l'avenant? Non, tout est déjà préparé à l'avance. Il sait exactement ce que vous allez traverser. Il sait. Est-ce que Dieu sait un homme comme il aura d'enfants? Est-ce que Dieu sait? Est-ce que Dieu savait qu'il allait en avoir 3 ou 4 ou 5? Tu sais combien t'en auras? Non, je te le souhaite pas. 21, je pense qu'à 15, tu peux t'arrêter. Mais Dieu sait exactement le nombre d'enfants qu'on a. Dieu, il le sait. Donc, il ne faut pas qu'on calcule bêtement, comme cet homme, justement, mon âme, j'ai des biens en réserve. Et à peine il a terminé sa phrase, qu'il entend la voix de Dieu qui lui dit insensé. Insensé. Ça veut dire pauvre fou. Voilà ce que ça veut dire en français. Insensé, ce soir, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et cet homme, vous voyez, il était sage. Il était sage pour les choses matérielles, temporelles. Est-ce que c'est bien d'avoir de la sagesse pour les choses matérielles? Mais bien sûr. Mais voyez, on peut avoir de la sagesse pour les choses matérielles et n'avoir aucune intelligence pour les choses spirituelles. À cet homme sage, Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera recommandé. Cet homme aussi, vous voyez, qui menait joyeuse et brillante vie. Pareil, paf, il est mort. Qu'est-ce que c'était son slogan à lui? Moi d'abord, Dieu après. C'est quoi votre slogan à vous? Est-ce que c'est moi d'abord, puis Dieu après? Il vous faut répondre. Vous répondre, pas forcément à haute voix, mais vous pouvez répondre dans votre cœur et dire, mais c'est quoi mon slogan? Moi d'abord, moi je fais comme je veux. Et puis après, on verra si Dieu peut être servi. Eh bien, malheureux êtes-vous si vous en êtes là. Les choses de la terre, en premier, c'est ça pour beaucoup de gens. Discuter avec les gens, alors, il faut s'amuser, il faut s'éclater. Les choses de Dieu, on verra plus tard. Et cet homme, il est mort. Vous connaissez cette affaire. La Bible dit, c'est Jésus qui en parle, il est descendu dans le séjour des morts. Parce qu'il y en a, qui s'imaginent qu'après la mort, tout est fini. Mais Jésus nous enseigne que ça ne se finit pas au cimetière. Beaucoup de gens s'imaginent qu'au cimetière, c'est terminé. Est-ce que vous pensez ça? Le cimetière, c'est fini, c'est l'anéantissement du corps, tout pourri, voilà, et c'est terminé, il n'y a plus rien. Jésus enseigne que ça ne se finit pas le jour de l'enterrement. Et ces choses-là, elles ont été écrites avec beaucoup de profondeur pour que nous prenions conscience du désespoir qui arrive aux gens qui ne se sont pas occupés de leur éternité. Vous connaissez Luc chapitre 16, cet homme qui se retrouve dans le séjour des morts, qui est livré au tourment. Vous connaissez la suite, c'est Jésus qui en parle, qui mieux que Jésus pouvait parler de ce qui se passe après la mort. Quand on lit ces choses, quand on en parle, on peut en parler avec légèreté. Mais l'évangile, quand on se retrouve dans une église, il faut quand même qu'on comprenne que ces choses sont sérieuses. Et que quand on lit les choses de la parole de Dieu, c'est solennel. Quand Jésus dit « cherchez premièrement », quand vous lisez Luc 16 et que derrière vous lisez « cherchez premièrement », ça devient d'une grande solennité cette affaire. On ne peut pas dire « ah bon, c'est vrai que ce n'est pas pour deux ou trois bricoles, avoir un peu plus ou un peu ou davantage sur cette terre ». Non, Jésus a dit « cherchez premièrement ces choses, son royaume, dans un contexte, particulier. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. » Ces paroles, il les a dites il y a longtemps. Vous êtes d'accord avec moi? Quand Jésus a dit ces paroles aux gens de sa génération, c'était pas du tout le même contexte qu'aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y avait la sécurité sociale à l'époque? Est-ce qu'il y avait les caisses de retraite? Les caisses d'assurance maladie, hein? Est-ce qu'il y avait les caisses de compensation, les allocations familiales, le RSA? Est-ce qu'il y avait toutes ces choses? Il n'y avait rien. Le pays était occupé par les Romains. Et Jésus a dit à tous ces gens qui n'avaient rien, ne vous inquiétez de rien. Quand Jésus a dit cela, je peux vous dire que l'époque était difficile. Et nous, aujourd'hui, qui sommes dans un pays avec plein d'avantages, franchement, à nous la honte si nous nous inquiétons du lendemain. Parce que de toute façon, caisse de retraite ou pas, RSA ou pas, Dieu a promis de prendre soin de ses enfants. Alléluia. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Oui, c'est la vérité. C'est Jésus qui le dit, c'est pas le ministre de l'époque de l'économie, c'est Jésus. C'est pas un ministre qui est en train de faire des promesses parce qu'il veut être réélu. C'est Jésus, le Seigneur du ciel et de la terre, qui dit quelque chose de solennel pour que nous prenions conscience de notre éternité, cherchez premièrement. Dans ce contexte, il dit « ne vous inquiétez de rien ». Alors bien sûr qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont pris ce texte et ils ne font rien. Ce n'est pas un texte qui nous encourage à la paresse. Est-ce que ça peut arriver à un chrétien paresseux qui ne veut rien faire, qui ne veut pas travailler, qui veut vivre au crochet de la société? Ben oui, et ça c'est pas bien. Parce que Dieu a inspiré l'apôtre Paul et lui a fait écrire ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et quand Jésus dit « ne vous inquiétez de rien », il ne pousse pas les gens à rien faire. Il ne pousse pas les gens à la paresse. Et au contraire, il veut créer un état d'esprit pour que les gens soient heureux, pour que les gens comprennent véritablement ce que lui veut. Il y a des besoins physiques, corporel, on a besoin d'être abrité. C'est vrai qu'on aurait pu faire la réunion dehors. Est-ce qu'on pouvait faire la réunion dehors, dans un endroit éclairé, avec une sono? Oui, qu'est-ce que vous préférez, dehors ou dedans avec le chauffage? Bon, pourquoi? Eh bien parce que on aime être abrité. Et Dieu, dans sa parole, il veut que les choses soient bien faites. On s'occupe de notre corps, vous voyez comment on s'en occupe. La preuve, merci Seigneur. Hein? Dieu veut que les choses soient traitées dans l'ordre. Et ce qui se passe aujourd'hui dans bien des églises, c'est que les choses secondaires viennent étouffer les choses prioritaires. C'est ça. Et le diable, ça lui suffit. Par exemple, voyez la réunion de prière. C'est important la réunion de prière? Eh oui. Est-ce que c'est prioritaire la réunion de prière? Moi, je pense que c'est prioritaire. C'est quelque chose c'est comme le culte. On ne devrait pas le négocier. J'ai rendez-vous dans la maison, à moins que je sois malade, mais j'ai rendez-vous dans la maison du Seigneur et je veux aller combattre le bon combat de la foi. Et le diable, il essaye de tout faire pour que les choses prioritaires soient étouffées par les choses secondaires. C'est écrit dans Colossiens, il faut que Christ soit en tout le premier. D'autant plus, mes frères et sœurs, que vous savez tout ce que Jésus a fait et a souffert pour sauver notre âme. Parce que s'il nous dit que notre âme a plus de valeur que le monde entier, l'âme d'une seule personne, vous savez que ce que Jésus a souffert à Golgotha. On pourrait lire Ésaïe 53, comment nous l'avons méprisé, comment il a été humilié, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accepté, toute sa souffrance, etc. Il est mort pour notre péché, pas pour le sien, il n'en avait pas. La Bible dit qu'il était sans péché, mais il est mort pour notre péché. Parce qu'on peut se dire, oui, mais il a donné sa vie. Oui, il a donné sa vie pour ce qui était le plus cher au monde. Ce qui est le plus cher au monde, c'est vous. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez que Dieu vous aime vraiment d'un amour éternel? Ça vous dépasse. Moi, Dieu, à moi vous êtes sûr? Eh bien oui, Dieu vous aime à vous plus que ce que vous pouvez penser, plus que le monde entier. Et c'est lui qui l'a dit. Alors, ça donne toute la valeur au sacrifice qu'il a accompli. Ça donne toute la valeur aux paroles qu'il prononce. Oui, cherchez premièrement. Il sait quels sont les besoins physiques, etc. Mais il sait quels sont les besoins de votre âme. Votre corps a besoin d'un abri. Vous êtes heureux avec le vent qui fait de vous retrouver dans votre chambre ou dans votre salon. C'est bien que votre corps soit à l'abri, mais dites-moi, votre âme, est-ce qu'elle n'a pas davantage besoin d'abri, autant de besoin d'abri que votre corps? Oui. Qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible? Hébreux chapitre 10, ne le cherchez pas. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ailleurs, dans ce même chapitre, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Notre corps est à l'abri du vent dans ce lieu. Mais est-ce que votre âme est à l'abri du jugement? C'est important. Lorsque Paul parle aux Athéniens, il dit que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde d'après sa justice par l'homme qu'il a désigné, Jésus-Christ. Un jour certain, un jour fixé, il y aura le jugement sur notre terre. Est-ce que vous le savez? Il y aura le jugement sur la terre. Et notre âme a besoin d'un abri. Car la Bible dit, mais qui pourra fuir la colère à venir? Il n'y a pas des questions dans la Bible qui vous ont interpellé, mais qui pourra fuir la colère à venir? Eh bien, ceux qui ont été protégés par Dieu. La seule façon de fuir la colère à venir, et je m'adresse à ceux qui viennent peut-être pour les premières fois, ceux qui n'ont pas encore pris au sérieux ces choses, pris au sérieux les promesses, bon, mais ça, c'est pas trop grave, mais pris au sérieux les commandements, à savoir chercher premièrement le royaume de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher à connaître son amour. Là, qu'est-ce qui s'est passé au calvaire? Mais qu'est-ce qui s'est passé au calvaire? Qu'est-ce qui s'est passé au calvaire pour moi? Est-ce que vous vous rendez compte? Le jour où justement il nous faudra passer chacun devant Dieu. Est-ce que vous y pensez des fois? Ça vous arrive d'y penser? Oui, ça arrive. Il nous faudra rendre compte. Quelle joie d'avoir eu la sagesse de se mettre à l'abri de la croix. Est-ce que vous avez cette joie? Est-ce que vous êtes à l'abri? Parce que sur la croix, Jésus a pris la foudre divine, la colère divine. A pris le péché, votre péché. Et si vous êtes passé par la croix, si vous avez accepté la mort de Jésus-Christ, si vous croyez que son sang vous purifie, si vous croyez qu'il a été cloué pour vous, et si vous lui demandez pardon, vous êtes à l'abri. Béni soit Dieu si nos corps sont à l'abri du vent. Mais béni soit Dieu 100 000 fois si nos âmes sont à l'abri du jugement. Alléluia. Votre âme est-elle à l'abri du jugement? Parce que le vent, oui, quand ça commence à souffler un peu, il y a des gens qui commencent à s'inquiéter. C'est pas vrai? Quand ça commence à souffler. Hein, vous me disiez que les tuiles de sa maison commençaient à... Quand le vent souffle, on s'inquiète un peu pour notre corps. Est-ce que c'est pas vrai? Mais quand le jugement va venir sur la terre, laissez-moi vous dire qu'ils seront heureux. Les gens qui auront pris à cœur ces deux mots de Jésus, cherchez premièrement. Oui, notre âme a besoin d'être à l'abri. Notre âme a besoin de se vêtir aussi. Notre âme, elle n'a pas besoin que d'être à l'abri du jugement. Notre âme aussi a besoin de se vêtir. Parce que la Bible dit qu'il ne faut pas que nous soyons trouvés nus. Il y a des gens qui seront trouvés nus. C'est Paul qui le dit, afin que vous soyez trouvés vêtus et non pas nus. Est-ce que votre âme est vêtue? Votre corps est habillé? Heureusement. C'est terrible de voir ce fatras de nudité de plus en plus. Mais votre âme est-elle vêtue pour le jour où vous allez vous présenter devant Dieu? Si vous deviez vous présenter demain devant la personne la plus importante à vos yeux, c'est qui la personne la plus importante à vos yeux sur la terre? Le président de la République? C'est qui? Comment? Non mais c'est qui? Il y a peut-être une personne pour vous sur la terre, c'est quelqu'un, il faut te présenter devant telle personnalité. Est-ce que vous vous mettriez sur votre 31? Oui? Bien sûr, voilà. Bon, quand on va se présenter devant Dieu, comment serons-nous vêtus? Certains s'imaginent que tout va bien se passer, ce qui est important, oh ben moi j'ai fait des œuvres, est-ce qu'il faut se présenter devant Dieu avec les œuvres qu'on a faites? Parce qu'il y a des gens, et je peux vous dire qu'il y en a, parce qu'on leur a dit, les pauvres, on leur a enseigné, que plus ils feraient d'œuvres, plus ils seraient vêtus lorsqu'ils passeraient devant Dieu. Ils le font de tout leur cœur. Vous voyez, il y a des gens qui s'imaginent, ah moi j'ai ma religion, moi je suis revêtu de ma religion officielle, j'ai appartenu à telle dénomination, donc quand je me passerai devant Dieu, moi je ne change pas de religion, je me présenterai devant Dieu avec ma religion. Je ne sais pas si ça va bien passer. La Bible dit ceci, Ésaïe 64, verset 5. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Moi, la première fois que j'ai lu ce verset, je me suis dit vraiment, j'ai vite compris le topo. Est-ce que vous vous rendez compte? Toute notre justice est considérée par Dieu comme un vêtement souilleux. Ça veut dire que tout ce qu'on a pu faire sur la terre de bien, de mieux, ce n'est pas accepté aux yeux de Dieu. Le verdict est catégorique, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. C'est pour ça que j'ai pris le texte du fils prodigue. Quand il est rentré à la maison, vous avez vu, avec sa misère, avec ses haillons, avec sa puanteur, qu'est-ce que le père a fait? Quand il a dit « j'ai péché », la première chose que le père a fait, c'est de l'accueillir. Mais avant qu'il rentre dans la maison, il dit « apportez vite la plus belle robe et revêtez-le ». Voilà. Dans l'Apocalypse, vous l'avez lu avec moi, mais qui sont-ils ces gens? Qui sont ces gens qui sont revêtus de robes blanches? Ces belles robes, ce sont des gens supérieurs? Est-ce que c'est des gens exceptionnels? La première fois que vous avez lu l'Apocalypse, vous vous êtes posé des questions, non? Non? C'est des gens comme vous et moi. C'est des gens qui ont menti, qui ont volé, qui ont trompé, des gens qui ont blasphémé, des impies, des misérables, des pécheurs. Mais un jour, quand ils ont entendu la prédication de la croix, ces gens-là ont cédé. Et ils ont dit, Seigneur, fais-moi grâce. Ils ont compris tout ce qu'on est en train de voir, que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés. Oui, et on l'a lu, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Avez-vous lavé votre robe? Avez-vous lavé votre cœur? Est-ce que vous pouvez dire ce soir, oui, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, ce n'est pas une religion, c'est mon cœur, je le lui ai donné. Dans l'Apocalypse, ces gens qui chantent, mais je comprends qu'ils chantent. Il y a de quoi chanter. Il y a de quoi pleurer des fois. Mais est-ce qu'il n'y a pas de quoi chanter quand on sait qu'on est sauvé? Quand on sait ce qui nous attend, quand on sait ce qu'il y a d'extraordinaire, voyez, d'avoir été lavé par le sang de Jésus, il n'y a rien à craindre, c'est pour ça qu'ils chantent. Ils chantent et ils chantent de tout leur cœur. Le plus beau vêtement, c'est quoi? L'autre jour, j'ai vu une émission, c'était en France, un couturier qui tous les ans, il fait des défilés de mode, et puis après, il vend les robes. Il y avait une femme qui était heureuse, elle était heureuse. Elle avait acheté 3 robes à ce couturier, 300 000 euros. Les 3 robes. Eh bien, j'ai dit, ma pauvre, moi, ma robe, elle est plus belle. Les plus belles robes, où elles sont? Elles sont chez Dior, chez Chanel, ou elles sont chez les chrétiens qui ont leur robe lavée dans le sang de l'agneau? Parce qu'une robe à 300 000 euros, je regrette, elle ne vaut pas celle des chrétiens qui sont lavés dans le sang de Jésus-Christ. Et les plus belles robes, je suis désolé pour ces grandes marques, les plus grandes robes, ce sont celles des chrétiens qui sont lavés dans le sang de l'agneau. Parce qu'au jour du jugement, Dior et Chanel, je veux dire, ça ne changera rien. Tandis que nous, parce que nous avons accepté le sang de Jésus-Christ, nos robes, elles sont lavées, elles sont blanches. Tant mieux pour les œuvres. Et j'espère qu'on en fera davantage d'œuvres. Vous voulez en faire davantage des œuvres? Oui, et j'espère qu'on en fera davantage. Mais ce n'est pas les œuvres qui vont nous sauver. Notre âme a besoin d'être vêtue de ces vêtements divins, de ce sang précieux de Jésus. Et notre âme a besoin, bien sûr, aussi de se nourrir. Jésus a dit, je suis le pain de vie. C'est lui le pain. Beaucoup de chrétiens veulent que Dieu donne certaines choses. Imaginez un fiancé, on va prendre un fiancé. Un fiancé qui dirait à sa fiancée, voilà, je t'aime, mais je m'en vais 3 mois, mais je te laisse ma voiture pour remplacer mon absence. Qu'est-ce que vous diriez? Voilà, je te laisse mon blouson. Voilà, tu vois, tu as mon blouson, on n'a pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est ça qu'une fiancée veut? Qu'est-ce que vous préférez? La voiture ou la présence? Ça vous fait rire. Mais croyez-moi, c'est ce qui se passe. Beaucoup de chrétiens veulent un peu de pain. Jésus est le pain de vie. Je suis le pain de vie, a dit Jésus. Et c'est lui qui donne sa présence. On l'a chanté, viens mon âme, te réclame. Je veux ta présence. Peut-être que vous n'êtes pas heureux. Parce que vous demandez à Dieu, excusez-moi, comme un fiancé laisserait son blouson ou sa voiture, ça ne va pas. Il faut le fiancer. Il faut que vous soyez avec lui. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est, je veux être d'abord avec toi, Seigneur. Merci pour le reste, le vêtement, le logement, la nourriture. Merci, Seigneur. Dieu vous le donnera. Si vous êtes fidèle, vous le savez, Dieu vous le donnera. Mais votre âme, est-ce qu'elle a ses faveurs? Est-ce que votre âme est à l'abri? Est-ce que votre âme est vêtue? Est-ce que votre âme se nourrit? Voilà, c'est ça, chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est faire en sorte que votre âme soit bien nourrie, que votre âme soit vêtue. Oui, et si nos robes parfois sont sales, ça peut arriver? Ça peut arriver? Eh bien oui, eh bien oui. Eh bien qu'en tout temps, tes vêtements soit blanc, que nous nous appliquions à dire voilà, il y a une tache, eh bien, je vais la nettoyer. Comment on le fait? Jésus a dit, quand il a lavé les pieds, c'est ce qu'il a voulu enseigner. Vous êtes purs, mais non pas tous. Mais il fallait quand même de temps en temps penser à se laver parce que la vie, la marche est faite de choses qui peuvent parfois nous salir. Donc nous devons nous occuper de notre âme. Je termine avec un appel. On pourrait peut-être chanter un chœur, chercher d'abord le royaume de Dieu. Est-ce que vous cherchez premièrement le royaume de Dieu? Est-ce que vous cherchez Dieu? On pourrait fermer les yeux quelques instants. Peut-être que quelqu'un dit, mais moi c'est ce qu'il me fallait, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Je cherche Dieu quand j'ai envie, je viens à l'église quand j'ai des problèmes, je demande à Dieu, aide-moi, guéris-moi, secours-moi, protège-moi. C'est pas ça, chercher premièrement le royaume de Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est chercher à être prêt pour le jour où Jésus va revenir vous chercher. Est-ce que votre âme est à l'abri? Voyez, votre corps est à l'abri. Tout à l'heure, vite, 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 vous allez aller dans votre voiture. Vite, vous sortirez pour entrer dans votre maison, parce que vous voulez que votre corps soit à l'abri. Mais est-ce que votre âme est à l'abri du jugement? Est-ce que votre âme est vêtue? Il y a des gens qui meurent en ce moment, ils se retrouvent nus devant Dieu. Ils se retrouvent nus parce qu'ils n'ont pas voulu revêtir cette robe. Avez-vous cette robe de fin lin? Avez-vous revêtu la grâce de Jésus-Christ? Avez-vous accepté son sacrifice au calvaire? Est-ce que vous êtes sérieux avec cette affaire? Cherchez premièrement. Vous qui cherchez davantage ci, davantage là, pour votre corps, pour vos affaires, est-ce que vous ne croyez pas que ce soir Dieu veut vous parler? Est-ce que quelqu'un est malheureux? Alors pendant ce chant, si quelqu'un veut s'approcher, approchez-vous. Je vais demander à Jérémie de chanter ce chœur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Pendant ce chœur, peut-être que quelqu'un a besoin, compris pour lui, avec lui. N'hésitez pas à vous avancer. Parce que franchement, beaucoup d'hommes et de femmes auront entendu ces choses et n'auront pas pris ces choses au sérieux. Elles sont solennelles, ces choses. Elles sont solennelles, non pas pour la terre, quoique, mais elles sont 100 fois plus, 1000 fois plus solennelles par rapport aux choses éternelles. Alors si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus-Christ, si quelqu'un ce soir comprend, cherchez premièrement, avancez-vous. Et Dieu vous fera grâce. Que son nom soit béni.